Vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de choc.ca.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur choc.ca. C'est le tome 37 de chapitre 402 de Mission Encre Noire qui commence. Femmes autour de vous. Demandez-leur à quel âge elles se sont senties pour la première fois comme un objet, que ce soit par un catcall ou par un commentaire sur leur corps. Je suis prêt à parier que la moyenne d'âge ne serait pas élevée, probablement quelque chose entre 11 et 13 ans. Trop jeune. D'ailleurs, les deux tiers des victimes d'agressions sexuelles ont moins de 18 ans. À quel âge, les gars, avez-vous fait vos premières blagues ou commentaires sur le corps des filles ? Moi, je me souviens que déjà au primaire, il y avait une fille qui se faisait continuellement traiter de fille facile, de pute, d'accro au sexe. J'ai contribué, moi aussi, avec quelques blagues. C'est terrible. On était en 5e ou 6e année. J'aimerais tellement m'excuser envers elle. J'espère tellement qu'on n'a pas scrappé son enfance, son adolescence, sa vie. On dit souvent qu'être viril, c'est être responsable de ses actes. Bien que je n'approuve pas cette vision de la virilité, parce qu'être responsable est l'affaire de tout le monde, j'invite les hommes qui y croient à être virils en agissant. Il est grand temps que nous fassions plus que nous excuser et compatir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Cocorico, les gars, faut qu'on se parle, par Michaël Bergeron, paru en 2023 aux éditions Somme Toute. Il est plus que temps de reconnaître que rien n'est figé dans une société, que les choses bougent, que les comportements évoluent. Qui aurait cru, il y a 20 ans, qu'un mouvement social sans précédent allait naître via notamment les réseaux sociaux. La première campagne hashtag MeToo en 2017 a changé la donne. De Balance ton porc à Moi aussi, celles-ci ont révélé l'ampleur systémique de la violence commise à l'égard des femmes. Dans cet essai éclairant à plus d'un titre, Michaël Bergeron se propose d'abattre l'arbre qui cache la forêt, de débroussailler quelques clichés au passage et de pénétrer dans l'antre de la bête, la masculinité toxique. Il est temps en effet de nous prendre en charge, nous les hommes, de se dire « ça suffit, changeons de disque, osons enfin nous parler des affaires qui dérangent ». L'image de la virilité, la paternité, l'idéal masculin dans le sport ou dans les forces armées, les attentes dans les relations amoureuses ou dans la sexualité, dans les rôles professionnels ou sociaux, les sujets ne manquent pas. Loin d'être donneur de leçons, l'essayiste se met lui-même à nu en multipliant les anecdotes personnelles et se garde bien de juger. Il est plus que temps de faire notre juste part aux côtés des féministes qui, elles, ne nous ont pas attendus pour s'affirmer. Vous n'êtes pas tannés, les gars, de tout ce bordel ? Est-il écrit en préambule ? J'accueille ce soir à Mission Encre Noire, Michaël Bergeron. Bonsoir, Michaël.
Oui, bonsoir.
Michaël Bergeron, depuis 2002, on vous connaît comme journaliste et animateur. Vous êtes chroniqueur au journal La Tribune et vous participez à différentes émissions de Radio-Canada. Vous êtes également conférencier, principalement sur la grossophobie et les médias, sujet de vos deux premiers essais publiés aux éditions Somme Toute. Vous collaborez aussi à différents projets artistiques comme le Mois de la Poésie, le Jamais Lu, Québec en toutes lettres et avec le Musée national des Beaux-Arts du Québec. On vous reconnaît comme un des rares experts masculins de la grossophobie et de la diversité corporelle au Québec. Alors pour commencer, pourquoi intituler votre essai Cocorico, surtout avec un sous-titre qui en dit long, les gars, faut qu'on se parle. Même si beaucoup de femmes vont certainement lire votre essai, l'homme reste encore une bibite mal connue, sinon dans ses abus?
Bien, c'est sûr que bien, pour le titre en tant que tel, pour moi, ça vient toucher, je pense, différents messages que j'ai dans mon livre. D'un côté, c'est un clin d'œil à ce jeu de coq que font malheureusement, je trouve, beaucoup trop d'hommes. Donc, c'est une espèce de fierté masculine qui fait en sorte qu'on aurait le droit de s'imposer ou même qu'on a une espèce d'appel à s'imposer sur les autres, moi, qui sur lesquels je suis assez critique. Et ensuite, ben, c'était aussi Cocorico, bon, c'est comme une espèce d'appel à se réveiller, hein. Ça, c'est quand même cliché du coq qui nous réveille le matin. Et aussi, bon, un cri de ralliement. Donc, c'est un peu tout ce que j'essayais de faire dans mon livre. Donc, à la fois, critiquer les comportements qui me dérangent et qui, je pense, dont on ne parle pas assez, qui sont souvent tabous, mais aussi justement pour se rallier, pour qu'on, bon, ben, je sais que je ne suis pas le seul non plus à avoir ces idées-là, à avoir ces critiques-là, mais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait se rallier pour en jaser ensemble, puis élargir cette discussion-là, inclure encore plus de gens dans les réflexions, puis que oui, ben les gars, faut qu'on se parle, donc une espèce de réveil, je pense, aussi collectif, parce que si je constate qu'il y a quand même plusieurs hommes qui sont conscientisés à différents degrés, selon à qui on parle, ben il y en a aussi beaucoup, je pense, qu'il faut, faut aller chercher, pour aller les inclure dans la discussion. Donc bon, c'est un peu tout ça, le but, de défaire certains, de faire des tabous, de faire des mythes, puis aussi ben, ne pas avoir peur en fait de se poser des questions et de se remettre en question. Mm-hmm.
Vous écrivez, il manque un leadership au sein de la masculinité que vous définissez comme un mouvement pluriel. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par leadership?
Ben, un leadership, je dirais, qui prend un peu les, qui soit proactif. C'est ça, je trouve, qui manque. Parce que oui, j'en vois, j'en connais des hommes qui, par exemple, vont souligner leur sympathie, qui vont effectivement regretter le trop grand nombre de violences conjugales, par exemple, ou de violences sexuelles, puis qui vont trouver ça déplorable. Puis bon, c'est bien qu'il faut, faut effectivement mais je pense qu'il faut être plus que ça. Il faut pas juste dire, hey, je suis désolé, ça devrait pas arriver. Il faut aussi agir et être proactif pour faire en sorte que ça n'arrive pas, que ça n'arrive plus. Puis on peut pas laisser ça entre les mains des femmes qui se battent, entre autres, en tout cas sur ces dossiers-là. Donc c'est ça un peu que j'appelle, comme je dis, un leadership. Je veux aussi voir des gars qui sont proactifs, qui vont travailler à prévenir ça.
Quelle a été la genèse de votre projet? Comment avez-vous hiérarchisé ou trouvé les différents sujets à aborder? En gros, comment avez-vous divisé, je dirais, l'organisation de votre essai?
C'est un mélange d'instinct et de réflexion, je dirais. En fait, bon, ça fait quand même plusieurs années que je m'intéresse à cet enjeu. Ça fait plusieurs années aussi que j'ai envie d'écrire sur le sujet. Donc, j'avais déjà beaucoup de notes. J'avais un dossier avec beaucoup de notes, déjà même des débuts de textes écrits. Bon. Mais quand je me suis dit, bon, je vais y aller, donc j'ai rassemblé toutes ces idées que j'avais déjà. Et après, j'ai ajouté, bon, OK, quel autre sujet je devrais aussi parler? C'est la bouffe, les relations intimes, les relations sexuelles, la violence, le cliché du bon alpha. Donc, je me suis mis à lister plein de sujets sur lesquels je me suis dit, OK, oui, sur lesquels je voyais qu'il y avait des enjeux, parfois qui semblent anodins, parfois qui semblent des détails, parfois qui sont très, très gros, énormes. Avec des éléphants dans la pièce. Donc, je me suis fait une liste, j'ai creusé, j'ai écrit, puis c'est à la fin, j'ai réorganiser ça pour trouver un équilibre dans... moi, j'aime que la lecture soit agréable parce que j'essaie que lorsque j'écris, j'aime ça que ça soit plaisant à lire, même quand des fois le sujet est un peu dur. Donc, moi, j'essaie de trouver un équilibre. Donc, bon, si à un moment donné, j'arrive avec une idée ou un concept qui est un peu plus lourd ou qui peut plus rentrer dedans, j'essaie après de rééquilibrer avec quelque chose d'un peu plus léger qui pouvait peut-être faire rire.
Alors, l'art est souvent un acteur essentiel pour initier les changements de mentalité. Pour prendre rien que l'actualité, on voit des films comme Close du réalisateur belge Luc Hadon qui va prendre l'affiche très très rapidement, qui raconte des histoires d'amitié d'adolescents masculines qui sont mises à mal par le modèle dominant. Ici, on peut trouver un équivalent chez Xavier Dolan. C'est même essentiel de prendre conscience de toutes ces problématiques que vous trouvez, enfin que vous exprimez à travers, je dirais, les chansons populaires que vous analysez. Mais n'est-ce pas l'apanage de la culture pop de jouer avec les marges ? Je lisais récemment le dernier Virginie Despentes de Cher Connard, où elle affirme que le rap s'est emparé des symboles de la bourgeoisie pour mieux les tordre et les ridiculiser. Est-ce que ça vous parle, tout ça ?
Oui, puis en fait, je suis le premier à aimer quand l'art utilise les codes, les détourne pour mieux nous les retourner au visage ou pour nous présenter un miroir, en fait, de nous, de notre société. Pour parfois aussi pousser des réflexions. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le travail de Banksy, qui justement utilise ces codes-là pour faire beaucoup de critiques, en fait, de critiques sociales. Mais en même temps, il y a aussi malheureusement, des fois, des artistes qui, au nom de ces concepts-là, fait, ne remettent pas tant en question et ont juste des propos qui peuvent être un peu troublants. Faut pas non plus... l'art n'est pas toujours là non plus. Il y a des artistes qui, au contraire, je trouve... ça fait partie de la diversité qu'on peut trouver dans l'art, mais en fait, moi, ce que j'approche aussi, c'est que, par exemple, si on prend des chansons d'amour, c'est que... Il n'y a pas une si grande diversité, en fait, dans les chansons d'amour. Il n'y a pas tant de chansons d'amour qui parlent de belles histoires d'amour. Ce sont des histoires d'amour très déchirantes ou hyper passionnelles. Et si c'était plus équilibré, s'il y avait une réelle plus grande diversité dans les chansons d'amour, peut-être que je ne l'aurais pas relevé, peut-être que je n'en avais pas, peut-être que je ne l'aurais pas évoqué. Même chose pour les comédies romantiques. Il n'y a pas tant de comédies romantiques qui sont de belles histoires d'amour saine, avec des beaux couples. Donc, c'est souvent, encore une fois, des histoires très dramatiques où quelqu'un manipule l'autre pour pouvoir être en couple avec, ou il y a la manipulation, du harcèlement, ou encore, des passions beaucoup trop déchirantes, ou des gens qui passent leur temps à se chicaner comme si c'était ça, la passion. Donc, je trouve qu'il y a un manque de diversité, en fait, dans les histoires d'amour qu'on nous présente, et à force de toujours voir le même type d'histoire d'amour, je pense que ça façonne aussi notre vision. De ce qu'est l'amour.
Alors, votre livre déconstruit pas à pas les mythes masculinistes. Parmi les contre-vérités constatées, on parle trop souvent de crise de la masculinité. Vous le dites vous-même, il n'y a pas de crise de la masculinité. Il y a sans doute de la souffrance chez certains hommes. Mais pour vous, l'enjeu est ailleurs. Du côté de ce que l'on nomme, ou ce que l'on nomme pas assez bien, ou ce qu'on a peut-être oublié, la virilité. De quoi s'agit-il ?
Oui, peut-être commencer justement avec ce que plusieurs masculinistes vont mettre de l'avant. Évidemment, ça prend beaucoup de nuances ici, là. Donc, je vais essayer d'en présenter suffisamment. Mais je trouve quand même que, des fois, ils pointent des éléments qui existent bel et bien. Dans la mesure où, effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui vivent une grande souffrance, due à beaucoup de raisons. Mais c'est juste que je trouve qu'ils ne pointent pas les bonnes raisons. Ils ne pointent pas les bonnes causes. Il ne soulève pas les bonnes questions, mais par contre, la souffrance qui est pointée du doigt, elle est effectivement souvent bel et bien là, elle existe. C'est juste que malheureusement, après ça, les hommes, souvent, dû à la virilité, justement, en tout cas, du moins, à comment on définit la virilité ou comment elle devrait être, c'est que malheureusement, les hommes, on leur apprend pas à comment gérer cette souffrance-là. On n'en apprend malheureusement pas aux hommes à comment l'exprimer. À comment passer à travers cette souffrance-là. Et c'est souvent ça le problème. Donc, lorsque les masculinistes pointent cette souffrance-là, puis arrivent avec en faisant croire que c'est dû à des facteurs externes comme les féministes ou comme beaucoup d'autres facteurs, alors que ils devraient beaucoup plus se regarder eux-mêmes sur la capacité à gérer leurs émotions. Donc, c'est, bon, des fois, la souffrance peut aussi nous aider à grandir puis à apprendre, même si je pense qu'on n'a pas besoin de la souffrance pour apprendre dans la vie, mais bon, ça peut quand même servir. Mais voilà, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut casser ce moule-là de la virilité, parce que malheureusement, ça emprisonne beaucoup trop d'hommes dans cette souffrance-là. Et souvent, même cette souffrance-là est créée par cette case très strict ou ce moule très serré de la virilité. Donc, il y a quelque chose que moi, je trouve est très, très relié et qui vient un peu s'auto-nourrir quelque part. Et c'est dommage parce que je pense que ça serait très facile à briser, en fait. Il suffirait simplement d'arrêter de justement vouloir emprisonner la masculinité dans une case. Et moi, ça m'a frappé dans plusieurs entrevues que j'ai données depuis la sortie de mon livre. C'est arrivé quelques reprises que les gens demandaient au public qu'est-ce qu'être un homme en 2023 ou même qu'est-ce qu'un vrai homme en 2023. Et mm-hmm. Je me dis, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de savoir c'est quoi un homme en 2023 par rapport à 1980. L'enjeu, c'est au contraire, il devrait y avoir plusieurs formes de masculinité. Arrêtons de vouloir mettre une case. Le problème n'est pas de la mettre à jour. Le problème, c'est qu'il y a une case. Donc, faut l'éclater, cette case-là. Il ne devrait pas y avoir de case, en fait. Il devrait y avoir autant de masculinité qu'il y a d'hommes. Puis, si on permettait à tous les hommes de s'épanouir avec leur personnalité, sans contrainte de case, de devoir correspondre à des standards très arbitraires.
Parmi vos inspirations de lecture, vous citez Martine Delvaux, Camille Robert. Martine Delvaux, qui nous rend visite assez régulièrement, a déclaré à ce micro vouloir délivrer un message d'amour. Le féminisme est une perche tendue vers plus de respect et plus de complicité. Est-ce que c'est un discours qui vous sied également?
Ah, totalement. Je suis parfaitement d'accord avec Martine là-dessus. Et d'ailleurs, mon livre, je le vois aussi comme un message d'amour. C'est pour moi, je cherche réellement je pense qu'on peut vivre mieux. Je pense qu'on peut collectivement être mieux aussi. Parce que pour moi, c'est une belle main tendue. Et j'ai aussi toujours vu le féminisme aussi comme une forme de message d'amour. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ce n'est de pouvoir faire en sorte de tous et toutes être égaux. En fait, c'est un message d'égalité, c'est un message on pourrait dire fraternité, sororité. Il y a quelque chose de très... c'est comment mieux vivre ensemble, puis comment diminuer la souffrance, comment diminuer les blessures. Fait que pour moi, c'est effectivement tout ça, et selon moi aussi, un très grand message d'amour. Puis en tout cas, c'est ce que j'espère aussi ressort dans mon livre. Ce n'est pas... Des fois, je le dis, ce n'est pas un livre contre les gars, ce n'est pas un livre non plus pour les gars. C'est un livre, en fait, juste pour qu'on vive mieux, en fait.
Hypersexualisation des corps, homophobie, grossophobie, tout cela illustre non seulement la pression sociale qui existe autour des mœurs et des identités de genre, mais également cela traduit la présence d'une grande violence dans nos rapports humains qui naissent dès la petite enfance, dans la séduction qui empoisonne nos vies. Est-ce que l'hétéronormativité nuit-elle à notre santé physique et mentale?
Ça ne devrait pas. mais effectivement, quand on revient encore un peu au poids des normes sociales, moi, je trouve ça terrible. C'est autant, là, en ce moment, on parle de masculinité, puis on parle effectivement de hétéronormativité, mais tu sais, c'est une mécanique qu'on retrouve également lorsqu'on va se mettre à parler de diversité corporelle, lorsqu'on parle de racisme, lorsqu'on parle de capacitisme. Bon, les normes sociales créent malheureusement beaucoup de stigmatisation. Et à partir du moment qu'on ne fit pas dans des normes sociales qui sont souvent très strictes, très serrées, ça peut être très dévastateur, en fait. C'est dévastateur sur l'estime de soi. C'est dévastateur sur même la place que la société nous laisse avoir. C'est dévastateur sur le jugement que les autres vont nous porter d'une manière parfois sans même nous connaître. Donc, ça peut avoir un impact énorme sur nos vies. Ça peut mener à de la solitude, ça peut mener à du rejet, ça peut mener à un manque d'affection, un manque d'amour. Ça peut mener même parfois, ça nuit à la carrière. Donc, l'impact est énorme. Et pourquoi? En fait, lorsqu'on parle de la question, c'est pourquoi? Et je pense que lorsqu'on fait une espèce de discussion très franche, un à un, avec n'importe qui, tout le monde va admettre qu'il y a quelque chose d'un peu absurde derrière ces normes sociales-là. Mais après ça, lorsqu'on revient dans notre quotidien, dans le train-train de la vie, les normes sociales reviennent, que ce soit consciemment ou inconsciemment. On jongle tout avec ces normes sociales-là. Des fois, on va essayer d'y correspondre. Des fois, on essaie au contraire de jongler avec l'impact de ces normes sociales-là sur notre vie, mais c'est impossible de dire qu'on n'est pas touché par ces normes sociales-là. Mmh.
On l'aura compris, votre livre parle des vraies affaires, ça fait partie justement du sous-titre. Mais il y a un exemple parlant, si j'en prenais qu'un seul, dans votre livre, c'est l'homme et son pénis. Il faut en avoir une grosse. Vous nous expliquez, historiquement parlant, déjà, c'est une hérésie. Et même dans la sexualité, son rôle est en réalité tellement surjoué. On privilégie la pénétration et l'éjaculation, comme à la télé. Mais l'homme, quelque part, vous nous expliquez, se néglige, peut-être passe à côté d'autres fantasmes, d'autres stimulations qui lui sont finalement inconnues. Ma question, c'est, aurions-nous besoin, nous les hommes, d'une véritable révolution sexuelle?
Oui, je pense que oui. Et en fait, moi, je pense que les hommes devraient davantage s'inspirer du féminisme pour ça, entre autres. Parce que moi, ce que je trouve, une des choses que je trouve très inspirant dans le féminisme, c'est que les femmes ont remis en question beaucoup de normes sociales, ont remis en question beaucoup de concepts ou d'idées reçues, entre autres sur la sexualité. Et moi, je trouve ça fantastique quand je lis certains livres, justement de femmes, et qui expliquent à quel point remettre en question la sexualité telle qu'on leur a enseignée leur a permis de découvrir des choses dans leur sexualité et des plaisirs qu'elles n'avaient même pas soupçonné que c'était possible. Et je me dis, waouh, mais pourquoi les gars, on ne fait pas la même chose? Je veux dire, qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'on ferait, waouh, nous aussi, les gars, et notre sexualité, autant dans l'éducation à la sexualité qu'on peut faire dans les écoles, mais même ce qu'on retrouve dans la pornographie, est très, très, très axé autour du pénis. Et je pense que ça nous coupe peut-être de certaines explorations qui peut-être ne plaira pas à tout le monde. On s'entend, chaque personne a ses goûts, ses préférences, etc. Mais je pense que ça nous coupe d'une certaine exploration qui peut-être nous empêche de découvrir certains plaisirs, de découvrir certaines douceurs, de découvrir certaines possibilités. Juste parce qu'on a de la misère à penser ailleurs.
Alors, il faut bien comprendre qu'habiter la ville, vivre le quotidien en tant que femme ou homme n'est pas du tout la même expérience. Ça a l'air simple dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Le défi que cela représente d'être une femme ou de faire partie d'une minorité, c'est toute une autre affaire. Vous illustrez d'ailleurs, pour revenir à la masculinité, la culture, vous illustrez la culture du viol. Vous prenez l'exemple d'un autre mal-aimé de la culture masculiniste en ville, c'est le cycliste. Quel parallèle et pourquoi faire ce rapprochement justement avec le cycliste?
C'est que surtout, je cherchais une façon, c'est une espèce d'obsession chez moi, j'aime beaucoup vulgariser parce que je sais simplement au milieu dans lequel moi j'ai grandi que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité ou qui a même l'intérêt de lire des essais qui peuvent être plus universitaires. Bon, je l'exprimais comme ça. Et donc, moi, j'aime beaucoup vulgariser, j'aime simplifier les théories, j'aime simplifier les concepts pour faire en sorte que même quelqu'un qui n'a aucune notion, qui n'a jamais été initié à certains concepts, puisse comprendre quand même des dynamiques ou des théories. Et en fait, c'est en réfléchissant, je me dis, qu'est-ce que les gens connaissent? Côtoie dans la vie quotidienne, les piétons, les cyclistes, et notre relation aussi avec les automobilistes, l'urbanisme, en fait. Donc, pour moi, c'est une façon de pouvoir faire un parallèle qui a ses défauts, mais quand même, faire un parallèle qui fait en sorte que n'importe qui puisse se projeter et comprendre. Puis simplement, je trouve qu'il y a une relation qui est intéressante dans la mesure où on est dans un milieu où, dans le transport, les cyclistes sont très vulnérables, mais c'est plus d'avoir tout autant leur place que les automobiles, par la structure sociale, dominent, en fait, nourrit. Donc, je trouvais qu'il y avait un parallèle à faire, en fait. Mais c'était surtout dans le but de vulgariser, puis faire un parallèle pour essayer de faire comprendre les choses peut-être autrement.
Vous nous livrez des détails intimes de votre vie et vous, vous luttez aussi pour nous enlever, à nous les hommes, l'idée en chacun de nous que les mâles, tous les mâles, finalement, où chacun pourrait être irréprochable. Vous dressez une liste non exhaustive où chacun pourra sans doute se retrouver. Et oui, est-ce que c'est moins pour accuser, j'imagine, que pour nous faire prendre conscience justement de l'ampleur du problème et aussi de nous faire prendre conscience de nos comportements en tant qu'hommes?
Ce n'est clairement pas pour accuser. Non, c'est au contraire pour montrer à quel point on est tous dans le même bateau. Puis c'est sûr qu'il y a des personnes qui auront peut-être fait que la liste serait peut-être plus longue, leur liste personnelle, disons, les comportements seraient peut-être plus longues que d'autres, mais n'empêche, moi, en fait, mon, c'est surtout que je... Tu sais, souvent, on se dit, ah, OK, oui, j'ai déjà échappé, mais tu sais, je n'ai jamais violé quelqu'un, donc ma conscience est tranquille. C'est comme, ben non, je trouve, on fait tous partie du même bateau, on a tous ou nos erreurs, et c'est normal, parce qu'il n'y a personne qui naît avec la perfection infuse. Et quand on va mourir, on risque tous de ne pas mourir parfait non plus. Donc, dans notre vie, on va passer notre vie à cheminer, à comprendre, à faire des erreurs, à se rattraper, à faire mieux. Puis, et donc, j'ai fait cette liste-là juste justement pour démontrer qu'on est tous dans le même problème et que c'est pour ça, justement, qu'il faut tous y participer. Et c'est pour ça qu'il faut tous y réfléchir. Pour, OK, bon, ben, comment faire pour que personnellement, j'y participe moins, personnellement, faire mieux, mieux traiter les autres, mais mieux se traiter aussi soi-même, mais aussi comprendre que ça veut dire que mon voisin, mon ami, mon père, mon frère, mon cousin, ben, ils sont souvent dans la même situation que la mienne. T'sais. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus dans un but d'inclusion pour après ça tous nous amener à participer à ce changement-là. Parce que voilà, je pense que je ne pense pas qu'une personne peut se dire irréprochable. Je n'y crois plus, juste pas, mm-hmm. juste parce que comment la vie est faite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une longue liste. Là. Certains trouvent qu'elle est trop longue. Pour moi, c'est juste pour montrer qu'il y en a beaucoup de gens qui peuvent déranger ou être violents. Donc voilà, c'était dans un but d'inclusion, en fait.
Pour finir, comme les masculinistes aiment étiqueter toute personne amenant une idée originale, on entend un peu trop souvent sous cette étiquette queer ou woke, mais si précisément, justement, notre salut passait par l'écoute des revendications dites, on va dire, avec grosses guillemets, marginales, et en particulier, celle de la communauté LGBTQIA2S+, est-ce que c'était par ce biais-là, justement, qu'on pourrait faire des progrès, je dirais, un petit peu plus rapidement?
Peut-être. Surtout, moi, il y a quelque chose, je trouve, qui pourrait être intéressant effectivement, dans les milieux, soit gays ou queer, ou non-binaire, ou, bon, je trouve un peu spirituel, bon, en tout cas. Mais il y a peut-être intéressant parce que, si je peux juste me concentrer, par exemple, sur la communauté gay, on va y retrouver des hommes qui vont revendiquer une très grande virilité. On va aussi y retrouver des gars qui vont revendiquer une très grande féminité. Et je trouve que ça peut être intéressant parce que, dans tous les cas, ce sont des hommes. Puis, il y a quelque chose de... Voilà, ce sont des hommes. Puis, en tout cas, même s'il y en a qui vont en avoir des préjugés puis vont lancer des insultes là, dans certaines situations. Mais il y a peut-être une belle porte qui ouvre une réflexion là, parce qu'au sein même de cette communauté qui parfois se fait insulter ou se fait rejeter, il y a une diversité de masculinité. Et ça peut être peut-être un exemple, peut-être l'élargir au reste de la société. Et d'autant plus que, en fait, les communautés LGBTQ doivent aussi passer par, puis ils doivent passer par le même processus que le féminisme et d'autres mouvements de remettre en question les normes sociales. Et donc, moi, je pense que ça peut y contribuer. Puis je pense qu'on peut s'y influencer. Et j'espère que même ces communautés-là vont participer aussi à, justement, je pense qu'elles le font déjà, mais à nos réflexions générales, sociales. Oui, probablement que ça peut être une des portes d'entrée, en tout cas.
Voilà, il fallait bien un jour mettre les pieds dans le plat ou dresser enfin la table. Les gars, il faut qu'on se parle, écrit l'auteur en sous-titre. Nous le constatons toutes et tous dans nos vies de tous les jours. À la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, il est plus que temps d'élever le débat, même si les changements ne se feront pas sur le champ. Voici un livre qui fait du bien, qui vous révèle les vraies affaires. Cocorico, les gars, faut qu'on se parle, par Michaël Bergeron, paru en 2023 aux éditions Somme Toute. Merci Michaël d'être passé à Mission Encre Noire. Est-ce que je vais bien ou non ? Aucune idée. Je dois bien avoir quelque chose, tout le monde a quelque chose. Je me demande de quoi ma vie aurait eu l'air sans Mado. Si j'avais juste été Luc. Ça ressemble à quoi la vie quand tu es toujours la même personne ? Quand tu n'as aucun alter ego. Peut-être que Luc se serait épanoui davantage sans Mado. Parce que Mado, elle s'est épanouie. Mais Luc, lui... Des fois, j'ai l'impression d'être une personne et demie. Luc, c'est la demi, malheureusement. Non, Luc n'est pas une demi. Luc est un humain à part entière. Pas obligé de déplacer de l'air pour être quelqu'un. Pas besoin de sauter plus haut que les autres quand t'es solide sur tes deux pieds. De derrière le rideau, je regarde le public qui m'attend. Des hétéros de banlieue, encore. Tant mieux. Ils sont moins difficiles. Quelques blagues cochonnes, ils sont pliés en deux. La petite table où se trouvait mon Léo est vide. Bizarre. Il est où ? Pas capable de rester assis deux minutes, les fesses lui démangent. Ouais, j'embarque sur la scène. On m'applaudit. C'est bizarre, des applaudissements. Ou peut-être que ce qui est bizarre, c'est de vouloir se faire applaudir. Mon amie Mylène trouve qu'on applaudit rarement les bonnes personnes. D'ailleurs, elle est où, Mylène ? Elle était assise au bar il y a deux minutes. Une belle surprise, ça faisait longtemps. Elle semblait de bonne humeur, ça aussi, ça faisait longtemps. Bon. Ils ont arrêté d'applaudir. Je n'ai pas d'inspiration pour me taper un monologue. Je vais me contenter de jaser avec le public. Assis à une table près de la scène, un groupe de spectateurs crie à la moindre occasion. Ils veulent que le monde le sache, qu'ils ont du plaisir. Ceci est un extrait de La vie fabuleuse des gens fabuleux par David Cloutier, paru en 2022 aux éditions de La Maison en Feu. Que le rideau se lève sur Mado qui prend possession de la scène dans son célèbre cabaret à Montréal. Elle regarde ce public d'hétéros de banlieue venu l'applaudir encore et encore. Pourtant, elle ne saurait dire, tant célébrée dans le rond lumineux des spots, ce qui la rend triste ou heureuse ce soir-là. Serait-ce l'absence subite de Léo, une jeune escorte survitaminée, celle de Mylène, cette comédienne qui aimerait vouloir danser seule comme ce voisin célibataire de son ancien quartier, ou peut-être est-ce la présence toute émotive de cette fille, Jessica, particulièrement éméchée, à la table près de la scène, qui semble toute retournée et perdue. Mado sourit. Après tout, comme disait Léo Ferré, le bonheur, c'est du malheur qui se repose, alors il ne faut pas le réveiller. Pas sûr que la galerie des personnages qui inspirent ce premier roman suive ce conseil. L'auteur nous régale de situations douces, amères, de réflexions cocasses sur la vie des gens mornes, aligne les tirades sucrées, salées. Notez toutefois que si ce livre n'est pas forcément destiné à un public facilement diverti et impressionné du Québec et d'ailleurs, c'est dans le texte, un charme indicible nous fait aux trajectoires en apparence banales de chaque protagoniste. Il se pourrait que ce premier roman puisse avoir l'effet de ces pilules du bonheur que s'enfile Léo, une sorte de béatitude qui peut parfois brûler l'estomac. J'accueille ce soir à Mission Encre Noire, David Cloutier. Bonsoir David.
Bonsoir.
Tu as œuvré dans le milieu de la télévision, web-série, sketch, court-métrage. Pendant plusieurs années, lectrices et lecteurs ont pu suivre tes chroniques hilarantes dans Urbania. La vie fabuleuse des gens fabuleux est ton premier roman. Alors, ancien chroniqueur, évidemment, d'Urbania, ton lectorat était plutôt en attente d'un premier roman. Tu étais un habitué des intertitres qui claquent, genre, j'en ai noté quelques-uns, l'hétéro, cette petite bête au sang chaud, voire reconnaître tes limites ne fait pas de toi un ami de marde. Comment passe-t-on d'un éditorial tapageur, drôle, cynique à l'envie d'écrire un roman? Autrement dit, y a-t-il un lien direct entre ton travail de chroniqueur et celui de l'écrivain?
Ben, en fait, je m'étais un peu tanné de la relation. Lorsque j'écrivais des chroniques, c'était beaucoup dans l'instantané. Tu l'écris, puis à la seconde où tu as terminé de l'écrire, tu l'envoies, puis le lendemain, c'est publié. Et une chronique, ça prend 5 minutes à lire. Donc, les réactions arrivait vraiment rapidement. Puis sur Internet, je trouve que les gens aiment réagir et aiment avoir une opinion sur tout, c'est correct, mais ça faisait en sorte que j'avais une relation qui était un peu particulière avec le lectorat d'Urbania, parce que j'avais l'impression que ce qu'on s'attendait de moi, c'était justement des chroniques un peu croustillantes, un peu drôles, un peu... puis on dirait que j'en suis venu à la conclusion que j'avais plus plaisir à le faire, parce que on dirait que je le faisais plus parce que j'avais envie d'exprimer les choses. On dirait que je le faisais parce que c'est ce qu'on s'attendait de moi, que j'écrive des petites chroniques le fun, drôle, qui pognent. Puis j'ai eu envie d'écrire un roman parce que je me suis dit, ben c'est différent. C'est un roman, les gens ont 300 pages pour se faire une idée sur ce que tu veux dire. Tu peux te permettre d'être vraiment plus nuancé, ou si tu l'es pas, si c'est quelque chose qui est un peu plus fâchant ou un petit peu moins politiquement correct, mais les gens ont le temps de se mettre en contexte, ils peuvent comprendre un peu plus le personnage. Tandis que dans une chronique qui se lit en 5 minutes, à la seconde, ou si c'est quelque chose qui est moindrement fâchant, c'est ramassé. T'sais. On dirait que je trouvais que, ben, dans mon cas, j'avais plus de... Je trouvais que de pouvoir écrire un roman, m'asseoir chez moi, prendre mon temps, de tout installer, un contexte, un univers, des personnages.
Alors, tu as le tour pour les titres à guicheur Anyways. La vie fabuleuse des gens fabuleux, c'est plutôt réussi. On devine une part d'insolence. Quand tu dis la vie fabuleuse, il y a un côté fantasmagorique, légendaire, imaginaire. Mais qu'est-ce que la vie a d'excessif dans ton livre? Doit-on y voir plutôt un synonyme plus ironique, plus proche de aller pathétique?
Oui, ben en fait, oui, parce que j'utilise le terme fabuleux, mais j'avais envie justement qu'en lisant ça, on réalise qu'il ne faut pas vraiment se fier aux apparences, parce que de l'extérieur, ces trois personnages-là, oui, ont quelque chose de fabuleux. C'est par exemple Mylène qui est une actrice connue. Je sais qu'à Montréal, croiser un comédien connu, on s'en sac un peu, mais si tu t'en vas en banlieue, puis que tu croises quelqu'un d'un petit village ou de banlieue croise son acteur de télérama préféré, il va être énervé. Fait que le côté fabuleux, Mylène-là, elle fait ça aussi parce qu'elle travaille, elle aussi, en télévision. Léo aussi, de par son mode de vie et de par son apparence, c'est quand même, je pense, fabuleux. Mais nous, en lisant le roman, on est témoins de ce qui se passe dans leur tête. C'est toujours à la première personne. Puis on réalise que, ils sont pas si fabuleux que ça, puis ils savent pas trop ce qu'ils font, puis ils sont toujours en questionnement, puis ils sont pas tant heureux. C'est quoi, j'avais envie que la vie fabuleuse des gens fabuleux,
Alors, il y a trois brèves qui nous accueillent en exergue, je les cite. À tous ceux qui ne sont jamais parvenus à vivre à l'extérieur de leur tête, à tous ceux qui essaient de ressentir à nouveau quelque chose qu'ils ont ressenti jadis, et à tous ceux qui font de leur mieux en ne sachant pas trop ce que ça veut dire vraiment. Alors, on dirait comme une profession de foi. Alors, pourquoi ces choix, ces trois phrases-là en particulier?
Ben, on dirait que quand c'est vraiment juste sorti comme ça, c'est quelque chose que moi je ressens souvent. Puis j'avais envie, tu sais, même si ces personnages-là, c'est pas moi, je les ai quand même utilisés pour exprimer certains trucs que je ressens. Quand on dit à tous ceux qui veulent ressentir quelque chose qu'ils ont ressenti jadis, je pense surtout à Mylène, parce que Mylène est beaucoup dans la nostalgie. Après, à sa vingtaine, puis quand elle était plus libre, puis qu'elle permettait de vivre sa vie avec plus d'intensité, puis est beaucoup romantique, Mylène, dans le fait de marcher dans une ruelle la nuit un peu saoule, puis d'explorer les gens, puis elle aime le côté sale, on dirait, des gens, puis on dirait qu'à 40 ans, dans sa petite banlieue, avec son mari, puis son petit téléroman, elle vivait plus beaucoup. Fait que je pense qu'elle est dans une quête de ressentir ce qu'elle ressentait jadis.
Ben, je mettrais Léo, un peu Jessica aussi, beaucoup dans le questionnement, puis à la misère à juste accueillir les gens dans sa vie sans les analyser, puis demander s'ils valent la peine d'être là, tu sais. Jessica, c'est pas des amis juste pour se faire des amis, on dirait, elle a de la misère à s'en faire parce que elle est très dans le jugement, on dirait. Mais Léo aussi, toujours constamment dans sa tête, Léo, ça filme constamment, puis je pense que, je pense que je mettrais quand même plus Léo. Mais tu vois, quand j'ai écrit ces trois phrases-là, j'ai pas vraiment écrit à des personnages, mais on dirait que là, quand j'y repense, ouais, on dirait que c'est Jessica, je pense que oui, elle tente de faire son mieux. Elle sait juste pas. En fait, Jessica est en question. Mais les trois sont en questionnement débat à la fin, mais Jessica, je pense qu'elle se questionne justement je pense qu'elle est Jessica, elle veut être normale, elle veut être comme tout le monde. Je pense qu'elle est un peu jalouse de voir que tout le monde, elle semble se poser moins de questions. Mm-hmm. Personnel semble plus facile. Tout le monde est déni, tout le monde vit leur vie, tout le monde font des trucs le fun le week-end. À de la misère parce qu'elle analyse tout. Puis, je pense que cette troisième phrase-là, j'irais plus que Jessica.
Il y a un autre personnage, puisque tu viens de brosser rapidement un portrait de tes trois personnages principaux, il y en a un quatrième, et non des moindres, j'en parlais en introduction, Mado Lamotte, Luc Provost, qui occupe en filigrane une place de, je dirais même de mentor. Tu lui donnes carrément la parole dès le début du livre et lui laisses la conclusion dans un sourire final. Qu'est-ce que représente Mado pour toi et pour ton roman?
En fait, c'est vraiment juste que Mado et Luc, l'interprète de Mado, je les aime d'amour. Je trouve que, en fait, justement, on parle du côté la vie fabuleuse, des gens fabuleux. Puis autant que Mado est fabuleuse et extravertie et assumée, quand tu rencontres Luc, c'est quelqu'un qui est très, ben, en tout cas, de moi, ce que j'en connais, qui est très calme, qui est très introverti, qui est très tranquille, qui est très doux, qui est très délicat, que, je trouvais que ça fitait bien avec le terme que, tu sais, il faut pas suivre aux apparences, mettons. Puis, ouais, je l'aime juste vraiment, vraiment beaucoup. Mado, je trouvais que ça rajoutait aussi un élément de réalité au roman, même si c'est une fiction. Je trouvais ça le fun. Je trouvais que ça faisait très de Montréal, que ça se passe dans le quartier. Ben, moi, je l'imagine comme si ça se passait dans Centre-Sud ou dans le village un peu. Fait que je voulais incorporer l'élément cabaret Mado, puis aussi Mado et Luc parce que je les aime, parce que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, mais aussi parce que je trouvais que c'était un élément qui était le fun dans l'histoire. Ça rajoute un petit élément de réalité dans une histoire fictive.
Alors, dans cette première scène, qui est aussi la dernière, comme sur une scène de théâtre, on est effectivement chez Mado et Mado prend la parole. Tu réunis l'ensemble de tes personnages dans cette première scène, des spectatrices, spectateurs, ces personnages deviennent les moteurs de ton histoire. Qu'est-ce que représente cette mise en scène initiale pour toi?
Ben, moi, quand je suis dans un bar, j'ai tendance justement à analyser, à me demander un peu. Tout le monde, on dirait que je trouve que la vie, le nightlife, la vie nocturne, on se retrouve tous dans des bars pour des raisons, des contextes différents. On dirait que c'est la raison. C'est un peu ça avec les trois personnages. Les trois se retrouvent là dans un état d'esprit différent pour une raison différente. Puis les trois sont un peu à la croisée des chemins. Puis on dirait que je trouvais ça le fun que ça commence justement dans un environnement. Dans ce genre d'environnement-là, je trouve qu'un bar, c'est un environnement vraiment particulier. Je trouve que les gens, ben, premièrement parce que souvent les gens ont consommé, mais c'est les gens, on les voit souvent sur une différente. On voit des couleurs différentes de ces personnes-là quand on est dans un bar, puis je trouvais que c'est intéressant que ça commence avec nos trois personnages qu'on ne connaît pas encore, qui sont tous réunis pour une raison différente dans un contexte fabuleux devant une personne fabuleuse au cabaret Mado.
Alors, masculin, féminin, féminin, masculin, queer, drag queen, Mado déclare être une personne et demie. Est-ce que ce sentiment est également partagé par tes autres personnages, Léo, Mylène, Jessica, selon toi? Sont-ils aussi à demi?
Je pense pas. Ben, je pense que tout le monde est un peu. Je dirais pas qu'on est à demi, mais je pense que la plupart des gens, on se pose constamment des questions. Je pense qu'on n'est jamais à 100% épanoui. Fait que je pense qu'on a toujours l'impression, oui, qu'il manque peut-être un petit quelque chose. Je pense qu'on est constamment dans une quête. En ce que j'espère, je trouve que les gens qui se posent cette question doivent être attentifs. Je dis pas que mes trois personnages, c'est des demi, mais je pense qu'ils sont pas encore nécessairement épanoui. Il se pose encore beaucoup de questions. Puis je pense que vers la fin du roman, il réalise que c'est correct de s'imposer. Je pense qu'il réalise que juste... Tu vois, je pense qu'à la fin du roman, il réalise que finalement, non, ça n'en est pas des demi. Je pense qu'ils apprennent à plus accepter qui ils sont, ce qu'ils veulent.
Alors, dans cette galaxie de personnages, trois, il y a des personnages secondaires qui se rajoutent, évidemment. Qu'est-ce qui guide, en fait, la narration? Puisque tu as un récit qui est plutôt éclaté, si on pouvait ramener ça à, je dirais, à une trame, est-ce que tu pourrais le faire? Est-ce que ça serait possible de le faire?
Et je pense que je m'inspire plus, moi, d'environnement que de personnages comme tel, dans le sens où, là, pour cette histoire-là, j'essayais de me ramener toujours à Montréal, puis à l'environnement de... Ben, pour ce qui est de... Je trouve que les trois orbitent autour des mêmes lieux. Premièrement, Mylène, qu'est-ce que travaille en même place? Il y a aussi beaucoup le cabaret Mado, et Mado est là, qui est comme un peu un noyau, parce que, en tout cas, Mylène et Léo, les deux ont un lien avec lui, et Jessica, indirectement, d'une certaine façon, a un peu elle aussi. Je sais pas ce serait quoi la trame. On dirait que c'est plus les environnements que les personnages comme tels. Ils ont peut-être des trucs qui les relient, mais on dirait que moi, comment je visualisais ça quand je l'écrivais, c'était plus des lieux que je visualisais. Des personnages.
Alors, Léo, qui est une escorte, vit un coup de foudre avec, pour son entraîneur sexy précieux. Mylène, actrice, se retrouve enceinte et le cache à son mari plate. Quant à Jessica, qui a 30 ans, qui n'a jamais été en couple, elle est attirée par Mathieu, mais qui manque vraiment de drive à son goût. Si je m'en tiens à tes trois lignes en exergue dont on parlait tout à l'heure, leur vie, en apparence, manque de piquant. Est-ce que la petite vie des gens normaux vaut plus néanmoins qu'il n'y paraît? En somme, pour pasticher une pub bien connue, gens ordinaires, vous êtes peut-être plus riches que vous le croyez. C'est ton avis? C'est ce que tu recherches là-dedans?
Moi, personnellement, je ne parlais pas pour mon personnage, mais je suis fasciné par les gens qui, justement, se contentent de vivre leur vie, ne se posent pas trop de questions, ne sont pas trop dans le... Ils sont dans leur petite routine. Ce qu'ils font, c'est toujours très conventionnel. S'ils font un voyage, ça va être un petit voyage une semaine dans un petit dans le sud. S'ils changent de job, ça va être pour... T'sais, on dirait qu'ils sont... Je dirais pas que ça a plus de valeur, là, la banalité, mais en même temps, je trouve ça fascinant parce que je pense que... Ouais, sûrement plusieurs personnes, oui, je suis un peu jaloux des fois des gens qui s'en diraient un petit peu moins la tête, contentent un petit peu plus de la simplicité, tu sais. En vieillissant, moi, j'ai réalisé que j'aime ça. Moi aussi, maintenant, je suis fonctionnaire. J'ai de m'acheter ma propriété. Je fais ma vie de 9 à 5. Puis on dirait que je commence à y trouver un plaisir dans la stabilité et la banalité. Là, parce que je pense qu'il n'y a rien de vraiment banal dans la vie quand tu commences à te cadrer plus longtemps. Mais...
On retrouve ta plume incendiaire, hein, celle qui te caractérisait dans Urbania. Tes fans ne seront pas déçus. Tu aimes l'humour noir et tu ne te prives pas, pour donner quelques exemples. Léo trouve que son pénis pue, son oui-oui. Un chat mort dans une ruelle est l'occasion d'un photomontage. Léo renifle ses Q-tips. L'odeur de la cire d'oreille le ravit. Jessica constipe en voyage, etc., etc. Est-ce que cette façon d'écrire permet de cultiver une forme de carapace, que tu en parles aussi de cette carapace dans le livre, de bâtir à travers un personnage, Léo ou autre, te permet peut-être d'être un peu baveux et ça te permet d'aborder certains sujets plus délicats en particulier.
Oui, je pense que oui. Je pense que quand on met de l'humour dans quelque chose, ça le rend un peu plus accessible, un peu plus... peut-être que ça l'adoucit un petit peu. Moi, j'aime vraiment mélanger l'humour et le drame. Je suis pas fan de l'humour quand c'est juste l'humour pour être l'humour. Quand c'est juste le but est seulement d'être drôle puis qu'on dirait qu'on reste en surface. Je suis pas non plus fan du drame quand c'est juste du drame pour être du drame puis que c'est lourd puis que ça finit plus. J'aime vraiment mélanger les deux. Je trouve que l'humour sans drame, c'est boring. Je trouve que du drame sans humour, c'est lourd. Puis l'humour noir, c'est un peu ma préférée. Je trouve que ça fait du bien de rire ça fait du bien de rire du drame. Moi, ça me fait du bien. Puis oui, peut-être que ça permettait au personnage de dire plus de choses sans que ce soit peut-être plus mal. interpréter parce qu'on l'allège un peu avec l'humour. Mais c'est certain que moi, quand je l'ai écrit, en fait, à la base, ce roman-là, parce que la seule chose que j'avais écrit avant, c'était une chronique pour Urbania, à la base, j'avais envie que ce soit un roman très drôle, puis j'avais pas tant de drame en tête. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'écrire 300 pages de contenu juste drôle, je sais pas. Je trouvais pas ça particulièrement intéressant.
Léo doit se construire une identité féminine pour un client. Il déclare « C'était libérateur de ne pas être Léo. C'était libérateur d'être une femme fatale. C'est comme devenir un athlète », dit-il. En quoi est-ce libérateur?
Mais je pense que Léo, comme beaucoup d'hommes, construit l'espèce d'image. Bien, on fait tout ça. Je pense qu'on construit toute une image. L'image qu'on a envie de projeter, tu sais, on se pratique un peu, là, puis on finit par devenir un peu ce qu'on a envie de projeter. T'sais. Puis je pense que Léo, même si Léo semble, dans ses propos, je trouve qu'il semble toujours très sûr de lui, puis il s'assume beaucoup. En même temps, il s'est quand même créé l'image, comme beaucoup d'hommes gays, du garçon vraiment très beau, très musclé, qui est gay, mais qui est pas très efféminé. Léo est vraiment, vraiment beaucoup dans l'image. Je pense que là, de se permettre d'être autre chose que lui, c'était libérateur parce que justement, il était plus dans l'espèce de censure constante de « faut pas que je sois trop maniéré, faut pas que je sois trop fabuleux, je suis beau, mais beau d'une certaine façon, sous certains angles, fait qu'il faut que je garde cette posture-là, puis la tête tournée du bon côté, puis on dirait qu'il est beaucoup là-dedans, Léo, fait que là, ce soir-là, c'est pas ça que son client voulait pour plaire à son client. » Il fallait qu'il soit libre, une femme libre. C'était pas Léo, puis il y avait une perruque, puis il était maquillé. C'était quelqu'un de complètement différent. Fait que je pense qu'il était libéré de des espèces de limites qu'il s'impose à lui-même parce qu'il a comme un peu décidé qu'il fallait que sous ces limites-là pour être la personne la plus attirante et la plus belle possible.
Ce qui caractérise aussi Léo, Mylène ou Jessica, c'est qu'ils vivent une vie sous pression. Mylène déclare « Personne ne s'assume à 100% tout le temps ». Est-ce que c'est là un peu le nœud de la guerre, selon toi, un enjeu principal, devoir paraître en société, devoir se soumettre à des règles hétéronormatives qui empêchent finalement le monde de s'épanouir, incluant les gens fabuleux dans ton roman?
Oui, ben oui, je pense que personne ne s'assume à 100% en effet tout le temps. Vers la fin, encore une fois, je pense que les deux filles s'assument plus. Je pense que tout au long du roman, on assiste un peu à leur questionnement, puis au fait que justement, ils ne s'assument pas. Puis je pense que c'est de là que vient leur inconfort. T'sais, on sent qu'ils sont inconfortables tout le temps. Puis je pense qu'ils sont inconfortables parce que leur questionnement, puis leur pensée ne concorde pas avec leur action. T'sais, ils sont souvent en train de. Jessica, par exemple, qui joue la game de la fille. Qui est full sociable, ah oui, je vais le faire pour être avec vous autres, mais en dedans, elle est tellement arrivée, je trouve ça qui se passe, ces affaires-là, j'ai zéro plaisir, j'ai pas envie de parler de ça.
Mylène a cette phrase assez cash, elle ne veut pas d'enfant, car, je la cite, il y a une phase que je n'aime pas, celle entre l'âge de 6 semaines et de 25 ans, toute cette longue phase-là. Alors, l'unique raison où angoisse, est celle de pouvoir continuer à vivre sans attache. Dans le fond, il faut être libre pour vivre libre, c'est un peu son idée, celle qu'elle poursuit. Mais je me suis dit, elle rejoint encore les autres personnages dans le sens où ils ont l'air tous non seulement perdus, mais à la recherche d'un bonheur quasiment impossible.
Mylène, je pense que la raison pour laquelle elle est dans une quête de bonheur, qu'elle recherche un bonheur trop grand, c'est juste parce que je pense qu'elle était juste vraiment plus sur son X. Tranquillement, pas vite, sa vie s'est transformée, puis elle ne s'est pas transformée de la bonne manière. Je pense que Mylène réalise juste que finalement, en effet, elle ne veut pas d'enfant. En effet, elle veut être libre. Je pense pas qu'elle veut un bonheur trop grand. Je pense juste qu'elle réalise c'est quoi pour elle son petit bonheur à elle. Pas nécessairement un grand bonheur inaccessible. Seulement, je pense que elle apprend à se connaître et à accepter ce qu'elle veut puis ce qu'elle veut pas puis à l'assumer. Je pense que son bonheur à Mylène, c'est ça qu'elle dit dans la nostalgie. Je pense qu'elle réalisait pas dans sa vingtaine, par exemple, ou dans sa trentaine, lorsqu'elle était libre, sans mari, sans bébé. Elle a pas de bébé enceinte, elle a pas d'enfant, mais je pense qu'elle était très heureuse à ce moment-là, sans nécessairement réaliser. Maintenant qu'elle arrive à 40 ans, qu'elle a plus ce mode de vie-là, je pense qu'elle réalise qu'elle n'est plus tant heureuse. Et je pense pas que c'est un bonheur trop grand qu'elle cherche, je pense juste qu'elle réalise qu'elle retourne à sa vie d'avant. Mais...
Alors, Léo, Jessica ou Mylène dissimulent un secret bien gardé. Alors, je n'en dirai pas plus, bien entendu. Il y a un splendide point tournant qui vous attend, chères lectrices et lecteurs. Comme Mylène qui se coiffe d'un vieux chapeau trouvé dans la rue, est-ce que tu as eu du mal à quitter ta galerie de personnages?
Ben, non. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'envie qui, après que je passe à autre chose, je passe à autre chose. Même que là, avant l'entrevue, cette entrevue-là, il a fallu que je prenne 15 minutes et que je prenne la peine de me remémorer. Mais c'est quoi mon roman? parce que non, j'ai tendance à... Non, en fait, c'est fait. Merci, bonsoir. Moi, à la seconde où le travail d'édition avec les filles de la maison d'édition était terminé, honnêtement, non, il n'y a absolument plus rien de ces personnages-là qui m'habitaient. Même si en même temps, ces personnages-là, il y a une petite partie de moi dedans. Je veux dire, cette partie-là m'habite encore et va toujours m'habiter. Mais les personnages comme tels, puis l'univers que j'ai créé comme tel avec ce roman-là, non, m'habite pas, me hante pas. Je vis ma petite vie. Il y a des éléments du roman qui sont encore là. Par exemple, moi, je suis amie avec Luc, avec Mado, que j'aime bien beaucoup. Fait que cet élément-là existe toujours. Puis il y a des petits questionnements que les personnages vivent, que moi, je vis au quotidien. Mais sinon, les personnages ne m'habitent pas particulièrement présentement.
Alors, pour finir, il y a un jeu d'ombre et de lumière entre vos personnages, je dirais même entre vous et vos personnages également. Est-ce que ce roman n'est-il pas l'occasion de réunir des portraits de gens qui se ressemblent et pourtant qui s'ignorent, qui s'évitent, qui ont du mal à se rassembler? Est-ce que c'est une sorte de carnaval de gens ordinaires que vous nous faites découvrir?
Mais je pense que oui. Je pense que c'est pour ça aussi que tu me demandais plutôt pourquoi ça commence au Mado. Je pense que c'est justement ça. Je trouve qu'un bar comme le Mado, c'est justement un carnaval de gens qui se ressemblent ou qui se fuient et qui se retrouvent au même endroit. Je trouve que c'est ça, les bars. Puis, oui, je pense que c'est une belle occasion de réaliser qu'on se ressemble tous un petit peu. On a tous les mêmes questionnements. Qu'on soit une drag queen ou qu'on soit... une actrice de téléroman quétaine qui trouve son propre show de poche. Je pense qu'on a tous les mêmes questionnements. Je pense qu'on est presque tous tout le temps dans une espèce de quête. Puis oui, je pense que j'espère que une des leçons du roman, c'est qu'on devrait se réunir un petit peu plus et qu'on est tous un petit peu dans le même bateau.
Voilà, sourire ou danser, vivre en pleine lumière comme Mado ou Luc, se projeter sur la page blanche aux côtés d'une galerie de personnages plus attachants les uns que les autres, c'est ce que vous propose l'auteur dans ce premier roman très pertinent. Venez valser avec vos démons à la lecture de La vie fabuleuse des gens fabuleux par David Cloutier, paru en 2022 aux éditions de La Maison en Feu. Merci David d'être venu à Mission Encre Noire. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire ce soir, le tome 37, le chapitre 402. J'ai eu le plaisir de recevoir en première partie d'émission Michaël Bergeron, venu nous présenter son essai Cocorico, Les gars, faut qu'on se parle, paru en 2023 aux éditions Somme Toute, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, David Cloutier est venu nous présenter La vie fabuleuse des gens fabuleux, paru en 2022 aux éditions de La Maison en Feu. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là.
Greta Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
Jorjão! Vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso tá bom.
Não. Poderia servir de que não serve. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
Agora um arame, um